Merci à vous. À bientôt.
Merci beaucoup, Christophe. Eh bien, bonjour à tous. Alors, micro, est-ce que vous m'entendez ou non? Pas trop? Donc, il vaut mieux le micro, alors. Vous m'entendez mieux avec le micro? Ok. Donc, on va fonctionner avec le micro. Donc, eh bien, vous êtes venus donc nombreux pour ce sujet qui nous concerne tous, en fait, les médias sociaux, et qui semble même nous dépasser par son ampleur. On a l'impression d'avoir face à nous une force qui nous dépasse. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que je ne suis pas un grand utilisateur de réseaux sociaux. pour tout dire, à part WhatsApp, donc j'en utilise quand même un très fréquemment qui est WhatsApp, mais à part WhatsApp, je n'utilise quasiment pas les réseaux sociaux. J'ai un compte Facebook, mais que je n'ai pas touché depuis des années. Mais malgré tout, j'ai quand même étudié de près l'image marchande, comme Christophe l'a dit, et les réseaux sociaux ont quelque chose à voir avec cette image marchande. C'est quelque part une filiation par rapport à l'image marchande emblématique qui est la publicité. Et d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, dont, puis j'ai un peu lu aussi sur le sujet. C'est pourquoi il y a des moments, je vous demanderai aussi votre expérience des médias sociaux. Donc il y aura quelque chose d'une interactivité, comme la révolution Internet l'a permis, dans notre conférence. Voilà, et donc, eh bien, je vous présente le plan que je vous propose de suivre en cette partie. Donc, le regard qui humanise et qui sauve. D'abord, des considérations un peu générales sur l'image, pour prendre conscience de sa portée, de sa force, et un petit détour biblique. L'image et son pouvoir, les médias sociaux, on va aborder le sujet principal, une plateforme publicitaire masquée, des effets alarmants, une opportunité de communication inédite, et que faire? Alors, peut-être que ce qui vous intéresse le plus, c'est que faire, ben, il faudra attendre la fin de la conférence. Alors, le regard qui humanise et qui sauve. Donc, je me suis amusé à regarder dans le Nouveau Testament les occurrences du terme œil, les yeux, et de les classer par catégorie. Donc, ça a été fait quand même rapidement. Voilà les catégories que j'ai pu identifier. Donc, la première, qui est assez générale, c'est, donc, on va le lire, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Il est clair que pour Jésus, le regard joue un rôle de lumière pour le corps tout entier, corps individuel, mais aussi corps collectif, on peut le prendre. Et donc, effectivement, les yeux, quand on y réfléchit, on peut les orienter. L'oreille, on peut difficilement filtrer ce qu'on veut écouter, ce qu'on ne veut pas écouter, tandis que le regard, c'est une expression de notre volonté. Vers quoi je choisis de diriger mon regard? Et après, intérieurement, de quelle manière je regarde? Mais c'est lié, les deux sont liés. C'est un véritable lieu de conversion, un moyen de transformer nos ténèbres en lumière, clairement. D'après la citation de Jésus. Deuxième, alors, autre catégorie, le mauvais œil. Donc, ça revient, je ne vais pas toutes les lire, hein, mais vous pouvez voir. Vous arrivez à lire là au fond? Ouais, tout le monde arrive à peu près à lire? Bon, ça c'est bien. Donc, ce sont toutes les occurrences où l'œil et le regard en ténèbres, justement, est mal orienté. Alors, par exemple, il y en a. Quand il raconte la parabole des talents, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est là que j'ai pris le titre. Donc Jésus est bien conscient qu'il y a une manière de voir le monde, une manière de regarder, une manière d'interpréter, etc., qui est en quelque sorte remplie d'une forme d'avidité, de maîtrise, de convoitise. Hein. Convoitise des yeux, c'est ce qu'on va dire. Et ça se retrouve aussi dans les épîtres apostoliques, donc la première lettre de Jean, la deuxième lettre de Pierre. Je ne les ai pas toutes mises, hein, les occurrences, j'en ai mis que certaines, ça aurait été trop long. Mais voilà. Oui, puis le pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil. J'aime bien cette image aussi qui montre qu'il y a quelque chose qui se joue dans le regard également. Les yeux qui ne voient pas. Alors ça aussi, c'est extrêmement présent. Donc la plus emblématique, c'est une reprise d'une citation d'Isaïe. « En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Et j'étais surpris de remarquer à quel point cette citation d'Isaïe est reprise de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, y compris dans les Actes des Apôtres, dans l'Évangile de Jean, qui pourtant est très différent. Voilà. Donc, c'est une phrase, visiblement, qui était considérée comme assez importante. Donc, une forme de déni visuel qui conduit à une forme de déni de la foi. C'est un peu lié, les deux étant liés. C'est si lié que... voilà, on verra dans la dernière des catégories. Donc, la guérison des yeux... On peut dire que la guérison d'un aveugle, c'est le miracle par excellence de Jésus. Dans l'évangile de Jean, c'est le miracle qui est le plus long. En fait, c'est celui, l'aveugle-né, la guérison de l'aveugle-né, c'est le miracle qui est le plus long, décrit le plus longuement dans tout le Nouveau Testament. Et puis, dans chaque évangile, il y a une ou plusieurs guérisons d'aveugles. Il y en a même certaines qui sont un peu spéciales, hein, qui se font en étapes, comme chez Marc, là, au chapitre 8. Voilà, donc c'est le chapitre 9. Hein. Je ne sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alors évidemment, ces guérisons des yeux sont signes aussi d'une guérison intérieure, d'une lumière intérieure qui permet de voir qui est Jésus, de l'identifier. Donc, les yeux de la foi, et ça aussi, ça revient de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Donc, c'est les catégories que j'ai pu voir. Donc, la foi se traduit par une manière de regarder le monde, et une manière de regarder le monde peut conduire à la foi. C'est ça qui est important de noter. Et la parole de Jésus, elle sert pour nous à orienter notre regard. Je prends un exemple. Quand il est dans le temple et qu'il y a la veuve qui met son obol, personne ne la voit, eh bien, lui, il va orienter le regard sur cette personne et sur le sens de son geste. Donc très souvent, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il fait comme un film, en fait. Le film, il va faire un gros plan sur cette femme. On va avoir un plan général où on la voit pas, puis d'un coup, hop, la caméra va s'approcher. Donc, elle oriente notre regard sur un détail. C'est ce que fait Jésus avec sa parole. C'est pour ça que l'image, c'est essentiel. Parce que ça guide notre regard. Un film, c'est un regard sur le monde. C'est un choix. J'ai choisi de montrer tel détail, de montrer de telle manière, de faire tel mouvement, etc., etc. Donc si c'est vrai qu'une manière de regarder le monde peut conduire à la foi, on comprend que ce que nous regardons en termes d'image est fondamental pour préparer le terrain de la foi. C'est un regard sur le monde. Donc ça, c'est pour le petit tour d'horizon biblique. Ensuite, deuxième partie, je vois que ça va très vite en fait. Donc l'image et son pouvoir. Donc avant d'aborder les réseaux sociaux, je voudrais faire quelques considérations générales sur l'image. Alors quand je parle d'image, pour moi ça a un sens très général. Ça peut être une image fixe, comme celle que vous voyez, mais ça peut être aussi des vidéos. De manière générale, c'est tout ce qu'on peut voir sur un écran. Et même maintenant, on a des images holographiques, où il n'y a même plus d'écran. Donc c'est voilà, tout ce qui est, en quelque sorte, une représentation virtuelle du monde. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi elles occupent une telle place dans nos vies. Et quel est leur pouvoir, leur force en particulier. Donc la première chose, c'est que l'image, elle nous communique toujours un message. Il y a une intention. Par exemple, il y a quelqu'un qui a photographié cette vague. Il avait une idée derrière la tête, il ne l'a pas fait comme ça. Peut-être il s'est dit, eh ben, je vais montrer, ouais, j'ai été séduit, ou alors il fait un reportage pour. Enfin, il a un projet, ça n'a pas été fait gratuitement comme ça, ça ne tombe pas du ciel une image. Il y a eu un être humain, à un moment donné, qui a fait le choix de capter cette image. Donc il y a déjà une intention, il ne le fait pas comme ça gratuitement, il a un projet derrière la tête. Et ensuite, il y a quelqu'un qui l'a mis sur Internet. Cette image, je l'ai trouvée sur Internet. Donc, deuxième intention, quelqu'un qui a repéré dans cette image-là quelque chose qui valait la peine d'être mis sur Internet. Et après, moi, j'ai été la récupérer sur Internet. Donc, j'ai aussi une idée à la tête. Si j'ai choisi de mettre cette image-là, ben voilà. Donc, elle a tout un parcours avec des intentions multiples et elle véhicule quelque chose. Que le premier y a mis, le premier qui a pris la photo y a mis quelque chose, l'autre a peut-être repéré ce qu'il y avait dans cette image, etc., etc., et ça se transmet. Et après, mais en tout cas, il y a une succession, si vous voulez. Donc l'image communique toujours quelque chose, et que nous, quand on la voit, on reçoit. On reçoit cette intentionnalité, ce message, quelque part, qu'elle porte. Donc, elle possède une espèce de force d'accroche plus grande que le texte. On va essayer de voir pourquoi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Non, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Par contre, si je vous montre ça, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Voilà. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose, mais en chinois. Et donc, vous comprenez que décoder un texte demande un apprentissage et une culture qui est entièrement acquise et qui dépend du lieu où je suis né, de ma culture, etc. etc. D'accord ? Le langage écrit et demande un travail de décodage que j'ai appris en étant enfant. C'est un travail, du coup, intellectuel. Alors que, si je vous montre ça, vous comprenez immédiatement de quoi il s'agit. Si je le montre à un Chinois, il va comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Pareil, si je montre cette image-là, vous comprenez voilà, que c'est le visage d'un enfant qui sourit, il y a un peu de joie, etc. Bon, voilà. Et cet enfant, il n'est pas forcément français, ou on ne sait pas, peut-être qu'il est français, mais en tout cas, je pense qu'un quelqu'un d'Amérique, un Américain ou un Vietnamien, etc., va comprendre également de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça transmet. Donc, l'image est un alphabet universel et immédiat. Il n'y a pas besoin d'un apprentissage culturel particulier. Ça s'appuie uniquement sur notre expérience de la vie, notre expérience du réel. Et à partir de là, on est capable de décoder ce qu'elle porte. Alors, pas forcément tout, il y a des éléments culturels quand même qui chargent. Mais il n'empêche qu'on a accès à un sens, quoi qu'il arrive, immédiatement. Alors que ce n'est pas la même chose pour le texte. Les diagrammes chinois, n'accédaient pas du tout à un sens. Donc ça s'adresse à notre expérience la plus primaire. Et il n'y a pas d'effort particulier à fournir. C'est un alphabet universel et immédiat. Il n'y a pas de décodage particulier. Alors, il peut y en avoir, on peut apprendre à décoder un langage de l'image. Mais en tout cas, pour avoir accès à un premier sens littéral, si je puis dire, il n'y a pas besoin. Donc c'est une force et en même temps, ça représente un risque. Deuxième point que je voulais souligner sur particulier à l'image. Donc si vous voyez cette image, vous savez ce que c'est cette image ? Exactement, l'arrivée du train à la gare de La Ciotat. Donc c'est une des premières projections cinématographiques, celle qui a été proposée par les Frères Lumière en 1895 à Lyon. Et plus fort ça, c'était fait en 1995 à Lyon par les Frères Lumière. Et vous savez comment réagit le public face à cette image ? Ils sont penchés comme ça. Ils ont voulu éviter le train. Voilà. Ça m'est arrivé aussi quand j'ai vu un des premiers films en 3D, c'était quoi déjà ? Gravity. À un moment donné, il y a un météorite qui arrive comme ça, et puis il arrive comme ça vers nous, très vite. Donc je voyais ce film en 3D, et j'ai fait ça, moi. Parce que je ne suis pas habitué, c'était une des premières fois. Voilà, donc l'image, pourquoi est-ce que les personnes ont réagi comme ça ? Parce qu'elles ont cru que c'était réel spontanément, c'est une réaction spontanée. L'image, elle a cette force de la preuve et de la vérité avec elle. Ce qu'on voit, a priori, alors maintenant on sait qu'on peut trafiquer les images, mais a priori, la première réaction spontanée, humainement parlant, anthropologiquement parlant, c'est d'adhérer à ce que je vois. Alors que la parole, on sait très bien qu'on peut vite être embobiné, donc on est un peu plus circonspect, ou etc. Mais l'image, tout de suite. Ça joue inconsciemment. D'ailleurs, on a dans la Bible, hein, si je ne vois pas dans ses mains l'arc des clous, si je ne mets pas mon doigt, je ne mets pas ma main dans ses côtés, je ne croirai pas. Donc on a le toucher et l'image. Voilà, donc, Donc forcément, elle attire aussi à travers cette propriété qu'elle possède. Donc pour mettre en doute ce que nous voyons, il faut un travail critique. Il faut une éducation, il faut un esprit critique. Sinon, a priori, on accepte ce qu'on voit. Le troisième élément, donc on revient, donc l'image semble vraie. Troisième élément, on revient à notre première image. Qu'est-ce qu'elle vous exprime, cette image? Qu'est-ce que vous...
Tempête.
Ouais, une tempête.
La force de la nature.
La force de la nature, ça.
La beauté.
La beauté, ça. En tout cas, on ressent des choses, vous voyez. Il y a une expression, il y a une force émotionnelle quand même dans cette image, hein. On est un peu en contemplation, on sent une force, une vigueur, comme ça. Donc on est un peu saisi. Et c'est pareil, les gens qui vont voir des films au cinéma ou quand on regarde un film, ce qu'on cherche, enfin, souvent ce qu'on cherche, c'est à être ému. On cherche une émotion. Et l'image, en particulier l'image vidéo, a une capacité à nous communiquer une émotion extrêmement forte. Elle a une force émotionnelle énorme. En même temps, donc, elle me permet de vivre en fait ce que peut vivre un personnage. Dans des films, par exemple, si on a une scène, la caméra va prendre le point de vue d'un des personnages et nous, en tant que spectateurs, automatiquement, ça va nous faire ressentir ce que ressent ce personnage, ce qu'on appelle la caméra subjective. Les réalisateurs savent très bien utiliser ça et on peut jouer avec nos sentiments quand on fait un film, en fait. Et alors, on peut faire exprimer toutes sortes de sentiments, hein. La peur, la joie, le pardon, la libération, enfin voilà, on peut, de la contemplation, exprimer beaucoup de sentiments, nobles ou moins nobles. Donc l'image a un pouvoir, un haut pouvoir émotionnel. Elle nous communique cette émotion. Toutes ces caractéristiques qu'on a vues, hein, donc elle est immédiate, haut pouvoir émotionnel, et puis elle aussi, voilà, elle est immédiate, universelle. D'ailleurs, à propos de l'universalité, vous savez que les premiers films muets, ils se diffusaient dans le monde entier très vite, hein, justement parce qu'elle était universelle. Eh bien, lui donne un pouvoir d'accroche, une force de rattraction très importante. Il faut prendre en compte ça, que l'image exerce sur nous une attraction, une force d'attraction. Dès qu'on a lancé le cinéma, c'était un succès immédiat. Ça s'est répandu très vite. Dès que la télévision est apparue, succès immédiat. Ça s'est développé aussi très vite. Donc, dès qu'on a inventé les smartphones, l'image portable, ça s'est développé extrêmement vite. Alors qu'avant, on avait un petit téléphone, il fallait appuyer trois fois sur A pour faire C. Enfin bon. Donc, voilà, c'est ça. C'est l'histoire humaine montre que tout de suite, elle emporte un succès parce qu'elle a cette force d'attraction énorme. Voilà, donc on a déjà un peu écumé le sujet. Maintenant que ces préliminaires sont passés, on va aborder le cœur de notre sujet, les médias sociaux. Alors, première chose, comme toute bonne conférence, définition. Alors, j'en ai trouvé trois sur Internet. Une qui vient d'un blogueur connu, réputé. Donc, les médias sociaux désignent l'ensemble des services permettant de développer des conversations et des interactions sociales sur Internet ou en situation de mobilité. Donc, une définition extrêmement générale qui met l'accent sur les conversations et les interactions sociales. Une deuxième définition qui vient de professeurs de marketing de l'École supérieure de Paris, André Kaplan et Michael Henlin. Un groupe d'applications en ligne qui se fondent sur l'idéologie et la technologie du web 2.0 et permettent la création et l'échange de contenu généré par les utilisateurs. Donc on a l'apparition d'un nouvel élément, l'application, donc un petit programme informatique, et un contenu généré par les utilisateurs. Voilà une originalité des médias sociaux, des réseaux sociaux. Le contenu est produit par les utilisateurs eux-mêmes. Et puis une troisième définition de Wikipédia, l'incontournable Wikipédia, qui est une sorte de média social. Un média social est une application web qui permet la création et la publication de contenu généré par l'utilisateur et le développement de réseaux sociaux en ligne en connectant les profils des utilisateurs. Donc, un autre élément, un nouvel élément de définition, c'est le développement d'un réseau social en ligne avec une interconnexion des utilisateurs. Donc, développer des conversations, une application qui permet ça, un contenu généré par les utilisateurs et le développement d'un réseau et une mise en contact des utilisateurs entre eux. Alors, qu'est-ce que vous avez comme nom de réseaux sociaux, de médias sociaux? Donc, je ne sais pas, vous en connaissez? Vous connaissez lesquels? Facebook, voilà, le plus connu, X, c'est ça? Instagram, c'est ça? TikTok. Pour les très jeunes, Snapchat. Pinterest, sans doute vous avez dû croiser ça. WhatsApp. YouTube, c'est une forme de réseau social aussi.
Strava pour les spécialisés.
Voilà.
Strava, c'est que pour les sportifs.
Voilà, pour les sportifs. Donc on a des réseaux sociaux extrêmement précis, TikTok, ouais, on a dit.
Signal,
effectivement. Ouais. Donc les définitions que nous avons vues, là, les trois définitions sont très générales. Elles peuvent regrouper de nombreuses réalités différentes. Alors qu'on peut aussi faire une typologie des médias sociaux, des réseaux sociaux. Il y en a, par exemple, où il y a des défilements continus d'images, ou des enchaînements continus d'images. D'autres, où c'est limité, bordé. Il y en a où il y a une connexion entre les personnes que je ne connais pas forcément, ou d'autres où c'est fermé sur uniquement un groupe que j'ai constitué, etc. Donc, comme WhatsApp, par exemple. Il y en a qui ont de la publicité, d'autres qui n'en ont pas. Il y en a qui sont plutôt des réseaux sociaux de contenu, comme YouTube, où on peut voir des vidéos qui ont 10 ans d'âge ou 5 ans d'âge, parce que voilà, c'est une sorte de ressource, une sorte de bibliothèque, alors que d'autres, c'est des flux, des vidéos qui ont une durée de vie de quelques semaines, quelques mois maxi, puis après qui disparaissent et qu'on ne regardera plus jamais. Donc, il y a différents types de médias sociaux, on peut les typologiser. Donc moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il y a un flux généré par l'utilisateur. Ça, c'est un élément un peu commun des médias sociaux. Il y a toujours un flux généré par les utilisateurs. Et puis, je poserai deux questions pour savoir, pour faire une typologie. Est-ce que le flux est généré par un algorithme ou pas? Donc typiquement, WhatsApp, non, il n'y a pas d'algorithme. Parce que c'est vous, uniquement vous, qui mettez les messages. Et les messages sont bordés, sont limités juste à ceux qui sont du groupe. Donc il n'y a pas d'algorithme qui gère la diffusion. Donc ça, c'est une catégorie particulière. Par contre, Facebook, il y a un algorithme, YouTube, il y a un algorithme, etc.
Qu'est-ce qu'un algorithme?
Alors, qu'est-ce qu'un algorithme? Bonne question. Bon, on va en parler des algorithmes, ça tombe bien. Mais on peut déjà dire un petit mot dessus. Donc un algorithme, c'est un programme informatique qui est chargé de sélectionner les vidéos qui vont être suggérées à vos yeux pendant que vous êtes sur un média social. Donc, par exemple, si vous êtes sur YouTube, sur le côté, il vous suggère des vidéos sur lesquelles vous pouvez cliquer pour les regarder. C'est un algorithme qui a choisi ces vidéos pour vous. Si vous n'avez pas désactivé votre enchaînement automatique de vidéos, quand vous avez fini de regarder une vidéo sur YouTube, il en enchaîne une autre. Mais c'est un algorithme qui a choisi cette vidéo pour vous. Quand vous êtes sur Facebook, vous avez un mur qui défile d'une façon infinie. Et il y a sans cesse des petites vidéos ou des messages, ou des tas de choses qui sont proposées. C'est un algorithme qui sélectionne ça pour vous. C'est une question centrale, la question de l'algorithme. Donc on va le voir après. Donc est-ce qu'il y a un algorithme ou pas? Et quelle est la pérennité des données pour identifier ceux qui sont plutôt des médias de stockage, comme des bibliothèques? On va y aller principalement avec des mots-clés d'autres. Alors il y en a qui sont un peu dans les deux, comme YouTube par exemple. C'est à la fois du stockage et c'est à la fois un média de flux, avec un algorithme. Voilà, donc pour les médias. Alors j'aimerais vous poser la question maintenant, quelle est votre expérience des médias sociaux avant que moi je vous en parle? Est-ce que vous avez des remontées d'expérience que vous pourriez nous partager? Donc plutôt un usage familial de WhatsApp. Et vous y passez combien de temps? c'est pas une question piège. Mais. Ouais. C'est ça. Donc, usage familial et amical avec des messages très circonscrits, effectivement. Ok. D'autres remontées d'utilisation de réseaux sociaux ?
Je passe beaucoup de temps parce que je fais beaucoup de choses.
Et donc, vous utilisez quel média, quel réseau social ?
Pas de WhatsApp, là.
Donc, WhatsApp, ok.
Et Facebook, beaucoup aussi.
WhatsApp et Facebook. Et alors, votre remontée, donc vous y passez beaucoup de temps, vous dites ?
Pas mal, oui.
Est-ce que vous trouvez que vous y passez trop de temps ?
Certainement, oui.
Alors, certainement, je ne sais pas.
C'est une vraie geek.
Bon, ça n'a pas l'air, en tout cas, de vous tourmenter.
Par contre, je ne passe sur X. Je n'aime pas du tout.
D'accord.
Parce que sur X, c'est ouvert à tout le monde et je trouve que c'est compliqué. On est facilement agressé. Mais Facebook, à partir du moment où on sélectionne les personnes auxquelles on s'adresse, on peut pas. Pas de soucis, mais okay. Il y a beaucoup de choses à dire et on rencontre beaucoup de gens.
D'accord. Voilà. Ok. D'autres remontées d'utilisation de réseaux sociaux ? Oui ?
Les gens sur WhatsApp, quand on a un groupe de femmes scientifiques, il y a un groupe sur tous les groupes, c'est très thérapeutique. Sauf que, avec l'utilisation, les gens disaient ah, maintenant j'ai fait ça, quand j'y vais, c'était très bien, voilà, parfait. Ça a vite débordé sur Zoom, il y a n'importe quoi, automatiquement. Ceux qui veulent rester là restent, mais on en fait un vrai que pour se donner rendez-vous, parce que le côté des parties, sinon, on ne va pas assez sécuriser là. On se dit, il y a des films, c'est pas intéressant.
Il y a une profusion d'informations.
Donc on a appelé ça blabla, je ne sais plus comment.
Ok, d'accord, oui, encore une expérience.
Je rejoins les deux témoignages, moi je suis sur LinkedIn.
Oui.
Mais j'ai deux profils LinkedIn, un vrai, avec une photo de qui je suis, et un avatar.
Ah, ça c'est intéressant.
Et j'ai vu une fois et plus de contacts parfaitement inconnus que je ne verrai jamais sur l'avatar, sur la réalité.
Intéressant. Et alors pourquoi l'avatar
L'avatar, ça permet d'avoir l'information sans déranger, sans savoir, sans dire aux gens que je veux les voir, ou sans. C'est pas mal ça, mais c'est par discrétion.
Uniquement par discrétion.
Mais ça permet d'avoir l'information sur ce que font les gens ou ce que font telle entreprise sans forcément savoir que je vais les voir.
Vous voyez, oui.
Excusez-moi, je suis belge. Non, c'est quelquefois comme ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'est quand vous allez avec votre vrai profil voir les gens, ils vont voir et vous avez un rapport qui est pas simple.
Ils reviennent vers vous, du coup.
Exactement.
Et donc, il y a une interconnexion qui se crée.
Vous pouvez répéter,
s'il vous plaît.
Oui. Donc, j'ai réagi à ce que M. Lannier, hein. Il a expliqué qu'il avait deux profils chez LinkedIn. Un où c'est un avatar et un où c'est son propre profil. Et il expliquait que son profil d'avatar, il l'utilisait pour aller chercher des informations. Et donc, ça m'a interpellé. Pourquoi est-ce qu'il ne se montrait pas ? Et il expliquait qu'en ne se montrant pas, il n'était pas suivi. C'est bien ça ?
Exactement.
Donc, moi, ça m'a un peu choqué en ce sens où on va voir chez l'autre sans se montrer. Donc, il y a quelque chose de, on va dire, de pervers. Mais, pas pervers dans notre. Non, mais dans le système.
Alors, a priori,
c'est. Dans le système, c'est pas par rapport à lui, je le prends pour protéger.
Alors, si quelqu'un est sur LinkedIn, c'est qu'il est public, hein ? C'est-à-dire, dès l'instant où on va sur un réseau où n'importe qui peut accéder à nos informations, on accepte le fait d'être public. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'espionnage, hein, si j'espionne pas une vitrine. Hein. Avoir un profil sur LinkedIn ouvert, c'est une vitrine. Donc, si quelqu'un regarde une vitrine, il peut être inconnu ou connu, peu importe. En tout cas, il n'y a pas d'espionnage. J'ai librement mis à disposition toutes ces informations. Par contre, ce que je comprends, c'est que c'est moins engageant d'avoir l'avatar. C'est-à-dire que ça permet de se balader sans trop s'engager, de façon plus discrète, pour ne pas être interpellé, pour ne pas être... voilà, c'est ça, en quelque sorte. Effectivement, un avatar, c'est moins engageant. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander, hein, si c'est bien joué de se dire, ben, moi, je profite des infos de l'eau, mais moi, je ne veux pas donner des miennes. Bon, après, c'est des questions éthiques. Hein.
C'est quoi un avatar ?
Alors, un avatar, qu'est-ce que c'est ? Bonne question. Très bonne question. Ben, vous allez pouvoir expliquer, puisque... C'est un personnage virtuel, quelque part, l'avatar. Je rêve d'être, je sais pas quoi, docteur, voilà, médecin de campagne, etc. Bah, je crée un avatar où je décris, je suis médecin, etc., puis je mets sur LinkedIn. Et puis voilà, comme ça, j'accède à tous les réseaux des médecins, puis je discute, puis je me fais passer pour un médecin, ça me fait du bien. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais... Voilà, j'avais une amie qui s'était créé un avatar musulman, pour pouvoir dialoguer avec les musulmans, parce qu'ils disent, eux, ils ne dialoguent pas avec ceux qui ne sont pas de leur cercle. Alors moi, je ne pourrais pas rentrer en relation avec elles, avec eux, et donc je me suis créé un avatar comme ça. Bon, voilà. Donc voilà, elle se crée un nom, une photo, je m'appelle Rachida, avec une photo, puis hop, on y va. Hop, voilà, donc, d'autres, dernières peut-être interventions sur l'expérience des médias sociaux ?
Moi, j'ai une utilisation beaucoup plus importante des réseaux sociaux. J'utilise Instagram pour mes usages personnels, LinkedIn pour mes usages professionnels, WhatsApp pour comme gens, ma famille, mes proches, etc. J'ai une consommation des réseaux sociaux qui est assez élevée parce que j'ai 2 heures, 2 heures par jour et c'est vrai que quand on est debout dans le métro, c'est parfois plus facile sur ton téléphone que de les ramener. Et ça, ça me permet aussi, ayant beaucoup expérience à l'étranger ou autre, de garder aussi un lien avec une communauté internationale qui parfois n'utilise pas WhatsApp, qui utilise d'autres choses en local, qui n'utilise pas Messenger, et d'avoir aussi un peu plus de proximité de vie avec des gens qui sont loin. Moi, j'ai vécu très longtemps à Grenoble, donc toute ma famille était en région parisienne, on ne se voit pas souvent, mais il y a aussi cette facilité d'échange par des messages que vous envoyez sur Instagram. Voilà, c'est une utilisation pour moi quotidienne et typiquement c'est parfois compliqué de poser le téléphone parce qu'il y a toutes ces notifications qui arrivent. Enfin, vraiment, il y a vraiment une vie par les réseaux sociaux. Et c'est, je sais que pour moi et pour nos amis et créateurs de montage, ça fait vraiment un vrai challenge aujourd'hui de réussir à couper et d'être que en face à face ou voilà, en présentiel.
Merci beaucoup pour le témoignage. Ah, encore quelqu'un ?
Je voulais simplement dire que ça a été proposé aux équipes provinciales, WhatsApp, c'était refusé à l'unanimité.
C'était refusé, c'est ça ?
Oui, moi, j'ai peut-être moins l'âge de Instagram, mais parce que j'ai un fils qui fait beaucoup de sport, il m'a fait pendant plusieurs semaines tout seul en vélo en Espagne et. C'est une façon de le suivre et lui trouve que ça ne couvre pas les réseaux et les photos. Il y avait son film de la journée, il faut regarder son mail, son lendemain il ne peut plus. Il postait et envoyait sa journée de l'eau là, tout est vu, etc. C'est une façon de vivre de façon très proche avec quelqu'un, ce qu'il est en train de vivre. Le soir, je regarde ça en 5 minutes et je voyais le résumé de sa journée. Et c'est comme ça que j'ai installé Instagram sur mon
téléphone. Et le lendemain, ça y est.
Et le lendemain, il n'y a plus de traces de ce qu'il a fait. Voilà. Et il peut y avoir des commentaires. Quand je fais un commentaire, je sais que ça va être vu par tous ses amis, etc. Donc je vais à ce moment en fait, sur le soir.
Voilà, une dernière intervention, parce que quand même qu'on avance un petit peu.
J'ai fait une expérience sur Facebook pour voir justement la puissance des algorithmes. Donc je me suis amusée sur Facebook à cliquer, à dire j'aime, à avec la princesse Kate dans le mur. Et je n'aime plus que ça. C'est-à-dire que tous les jours, je laisse, c'est un test que j'ai dû faire, et tous les jours, il n'y a que des photos de William. C'est très intéressant, c'est bien l'algorithme se dit, et en même temps, le danger, parce que si j'avais cliqué sur, je ne sais pas, quelque chose de sectaire, j'aurais que cette secte,
ce qu'on appelle l'effet bulle. On va en parler. Merci pour ces interventions. Alors effectivement, donc on a eu le témoignage d'une personne pour qui c'était un challenge aussi de pouvoir poser le portable et de le laisser. Et c'est en particulièrement vrai pour les plus jeunes générations. Plus on est, voilà. Et c'est effectivement le constat que font beaucoup de monde. Et pour parler objectivement, d'abord, nous allons regarder ensemble quelques statistiques sur l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, ça vient de Médiamétrie. Une statistique sur la population mondiale qui va sur Internet. Donc, 5,7 milliards. En France, 54,5 millions. Donc pratiquement 86% des Français. C'est des chiffres de 2023. Voyez ici. Les utilisateurs actifs de médias sociaux, c'est-à-dire qu'ils vont dessus, alors je ne sais pas exactement actif, quelle est la définition, quelle fréquence il faut, c'est pratiquement quotidien, hein, 4,76 milliards. Ou alors il y a un certain nombre d'utilisations dans l'année. Donc c'est gigantesque. Hein. C'est, ouais, 60% de la population mondiale qui est utilisateur actif des médias sociaux. C'est un vrai phénomène mondial, en fait. Et 38 millions de Français, 60% de la population. Donc, on est au même niveau, pratiquement, que dans le monde. Donc, un phénomène massif. Les 38 millions, ça a pondéré aussi avec le fait que nous, on est une population assez vieillissante. Donc, je pense que ça joue. Faudrait comparer voilà, avec une population. Faudrait pondérer avec un âge. Mais il faudrait voir quel est le pourcentage, par exemple, des gens en dessous de 50 ans qui utilisent et qui est un utilisateur actif des médias sociaux, et à mon avis, là, on bondit beaucoup plus qu'à 60%. Alors, autre chiffre, on va s'intéresser de façon plus précise. Donc, qui se connecte chaque jour sur Internet en France? 47,4 millions de Français se connectent sur Internet chaque jour. Et c'est en augmentation. C'est ça qui est intéressant de voir également. C'est que ces chiffres sont en constante augmentation année après année. Le temps de surf moyen pour un Français, alors à votre avis?
3 heures?
Non, moins quand même. Ouais, aux environs de 2 heures. Donc 2h24, donc plus 50 minutes en 5 ans, et plus 6 minutes par rapport à 2022. Tout est en croissance. Hein. 4 heures pour les plus jeunes. On va le voir après. Donc par jour, vous imaginez, hein. 4 heures par jour. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui font 8 heures, d'autres pas du tout. Il y a certains jours, on ne le fait pas parce qu'on a beaucoup de travail, on est invité, je ne sais pas quoi, donc le lendemain, ça veut dire qu'on fait 5 ou 6 heures. Enfin, en tout cas, c'est une moyenne sur l'année. Les réseaux sociaux maintenant. Donc, 2 Français sur 3 consultent les réseaux sociaux chaque jour. Et ils consultent en moyenne 3,5 réseaux sociaux. Donc pas par jour, hein, mais le nombre de réseaux qui voilà, il y en a qui ont Insta, LinkedIn, et puis etc. Donc 3,5 en moyenne, et 4,4 pour les 15-24 ans. Le temps passé, maintenant, alors attendez, hop. Donc le temps passé, 39% du temps de surf quotidien des Français, est consacré aux médias sociaux, ce qui veut dire 50 minutes, 56 minutes par jour, une heure en gros. Et pour les plus jeunes, on est à 59% du temps passé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en gros plus de 2 heures, 2h24 chaque jour à consulter les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment des chiffres assez fiables, hein, qui viennent de Médiamétrie. D'ailleurs, tous les sites qui rapportent ces chiffres, c'est toujours les mêmes, ils viennent tous de Médiamétrie, ils mettent source Médiamétrie.
C'est le temps passé par rapport à ce qu'on fait sur Internet.
Alors,
en rapport avec Internet.
Voilà. 40% de la journée. Vous avez le temps de surf, c'est 2h24, 4 heures, uniquement Internet, donc ce n'est pas l'écran. Parce que si je regarde Netflix sur ma box, à son nom de ma télévision, c'est pas compté. Si je vais au cinéma, c'est un temps d'écran qui n'est pas compté. Donc ça, c'est uniquement le temps que l'on passe sur Internet.
Que ce soit son téléphone ou l'ordinateur.
Oui, voilà. Le téléphone, l'ordinateur. Alors, il y en a qui surfent aussi avec leur télé. Voilà. C'est quand je me connecte à Internet et que je surfe. Donc, 2h24, la moyenne générale pour tous les Français. Donc, il y en a beaucoup qui n'y vont pas. Et 4h pour les plus jeunes. Les réseaux sociaux, maintenant. Donc, c'est 39% de ce temps-là qui est consacré à Internet. Donc, 39%, on voit que ça fait à peu près, effectivement, une heure. 50 minutes par jour. Et 59% chez les 15, donc 59% de ça, ce qui fait 2h24. Ça va, c'est clair? Donc c'est encore, c'est pas un temps d'écran, hein. C'est uniquement un temps d'Internet. Après, une autre diapo, pour avoir une idée de, un peu objective du phénomène. Donc c'est toujours médiamétrie. C'est chez les plus jeunes, enfin par tranche d'âge maintenant. L'utilisation des réseaux sociaux en bleu, donc on a bien, vous voyez, 2h24 pour les 15-25, et en rouge, le temps de surf total. Donc là, on a bien, ici, c'est les 4 heures, 6, 6, 6, 12, et ça, 100 minutes. Donc les 4 heures, et puis les 2h24 de temps de surf. Ça, c'est le chiffre qu'on avait là, et on avait le chiffre aussi pour la moyenne générale de tous les Français, donc qui était de 2 heures et quelques d'Internet, et une heure en gros de médias sociaux. Donc vous voyez comment ça se diversifie par tranche d'âge, on voit très clairement que les plus jeunes sont les plus concernés.
On voit les 11-14.
Alors ici c'est 11-14 ans, 15-24 ans, 25-49 ans, 50-64 ans et 65 ans et plus. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la part des réseaux sociaux tend à diminuer avec l'âge. On passe plus de temps sur Internet et moins sur les réseaux sociaux. Donc peut-être pour écrire des mails, peut-être pour des choses comme ça. Quoi. Alors c'est ça. N'empêche que nous ne sommes pas nés avec, enfin en tout cas la plupart d'entre vous, mais quand on est dans les réseaux sociaux, donc c'est apparu dans les années 2000, hein, donc pour ceux qui ont 24 ans et moins aujourd'hui, ça pose quand même une question sur l'impact que ça peut avoir dans leur vie, quoi, cette utilisation aussi intense dès le jeune âge. On verra d'ailleurs qu'on a analysé un peu ça, hein, c'est ce qu'on va voir après. Alors, donc c'est des chiffres quand même qui donnent le vertige et qui permettent de prendre la mesure du poids que les réseaux sociaux ont dans nos vies. Pour en avoir une petite idée, il y a un auteur qui s'appelle Michel Desmurger qui a comparé ça avec le temps que l'on passe à l'école ou au travail. Donc voilà ce qu'il dit. Durant la préadolescence, que nous situerons entre 8 et 22 ans, les enfants voient leur besoin de sommeil diminuer sensiblement. Chaque jour, ils gagnent naturellement entre 1h30 et 1h45 d'éveil. Cette conquête, dans sa quasi-totalité, il l'offre à leur biologie publique. Ainsi, entre 8 et 12 ans, le temps d'écran journalier grimpe à presque 4h40. Alors c'est plus que 4 heures parce que c'est tout écran là, qui comptait. Contre 3 heures précédemment. Ça veut dire qu'avant 8 ans, ils sont à 3 heures par jour. Ce n'est pas rien, cela représente environ un tiers du temps normal de veille, cumulé sur un, donc si on enlève, je sais pas, les repas, machin, il ne reste plus grand chose, quoi, les transports. Quoi. Cela représente environ un tiers du temps normal de veille, cumulé sur un an, cela fait 1700 heures, l'équivalent de 2 années scolaires. Ce qui veut dire que si on considère que les réseaux sociaux, comme c'est grosso modo la moitié pour les plus jeunes, c'est 2h24 sur 4 heures, 2h24 d'ailleurs des 4 heures, oui, ça fait pratiquement pile la moitié. Ça veut dire une année scolaire. Ils passent autant de temps à l'école, en cours, que devant leurs réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi de mesurer l'influence que ça peut avoir, qui surpasse quasiment celle de l'école, parce qu'en plus, c'est des vidéos qui sont extrêmement travaillées pour capter. Hein. Voilà. Ou, il compare à un an d'emploi salarié à plein temps. Donc un titre très sympathique que je trouve, « La fabrique du crétin digital ». Je recommande ce livre, on le verra après, je reciterai une autre fois Michel Desmongers. Voilà. Alors, j'ai un peu perdu là. Hop, les médias sociaux, voilà, ça en a fait. Maintenant, on va passer donc au point suivant, une fois qu'on a vu ce que c'était que les médias sociaux, qu'on a vu leur poids, leur influence, une plateforme publicitaire masquée. Donc il y a un fait qui est commun à tous les réseaux sociaux, pratiquement, enfin, jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'il y en ait qui m'échappent, mais en tout cas pour ceux qui ne sont pas confidentiels, c'est que ce sont des entreprises à but lucratif, que leur objectif premier consiste à gagner de l'argent. Ce qui est terrible, c'est que les médias sociaux donnent l'apparence d'être philanthropes, de fournir un service extrêmement généreux, gratuit, un peu comme une grand-mère qui est gentille et qui se donne généreusement à ses enfants, à qui on devrait être redevable d'ailleurs. Mais en réalité, ce sont des marchands qui font des profits records. Et pour vous convaincre, je suis allé chercher le chiffre d'affaires de la société Meta. C'est la plus grosse société de médias sociaux, donc ils possèdent Facebook et Instagram, notamment. Ils ont aussi WhatsApp, je pense. Enfin bon, en tout cas, il n'y a que Facebook, oui, c'est sûr, mais ils ont WhatsApp, Facebook, Instagram. Donc c'est notre fameux ami Zuckerberg, là. Et donc, à votre avis, c'est combien le chiffre d'affaires Meta ? Alors, si on prend que Instagram, par exemple.
3 milliards.
Ah ouais, plutôt 40, ouais. En fait, c'est l'équivalent, quasiment, à peu de choses près, c'est un peu moins, que le budget de la défense en France en 2023. Et pour Facebook, c'est à peu près équivalent au budget de l'éducation nationale, qui est le plus gros budget de l'État français, sur un an. Ça veut dire, vous voyez, défense, ça veut dire payer tous les salaires, la recherche, le matos, l'entretien, les bâtiments, tout ça. Tout compris, ça fait ça. Vous imaginez de la somme que ça représente. Et l'éducation nationale, donc c'est payer tous les profs, les écoles, les machins, tout ce contrat, voilà, tout ça. C'est une vraie bonne question. Donc voilà, ça vient du site BDM. Le groupe Meta communique son chiffre. Donc il ne communique que son chiffre d'affaires global. Donc c'est une spéculation qui nous permet d'identifier la part de Facebook et la part d'Instagram. Mais on n'a pas. Donc c'est très opaque. On n'a que le chiffre d'affaires global. 134,9 milliards de dollars. 60,3 milliards de dollars de l'État. Vous voyez que ces entreprises-là ont le pouvoir, quasiment la capacité financière de l'État français. C'est-à-dire une des plus grandes puissances mondiales. Ça, c'est quand même un peu ahurissant. Et c'est une fortune qui s'est créée en 20 ans. En 20 ans. 20 ans, tout ça, Facebook, tout ça, ça a 20 ans. 25 ans. Voilà, donc c'est ahurissant quand on voit les chiffres. Donc ce n'est vraiment pas des philanthropes. Et comment gagnent-ils leur argent ? À votre avis ? Voilà, donc c'est exactement ça. Donc il y a des contenus qui sont sponsorisés, qu'on ne voit pas forcément. Donc sur Facebook, il y a des moments, si on avait une connexion, je vous aurais passé mon compte Facebook, comme j'y vais jamais, il ne passe que des vidéos qui sont les plus populaires. On ne connaît pas, donc il passe un peu n'importe quoi. Et donc je n'ai pas fait comme vous, là. On voit à un moment donné une vidéo de Zuckerberg qui m'explique et me vante la nouveauté de l'intelligence artificielle chez Facebook. Il a beaucoup investi, vraiment pour nous, c'est vraiment le bon papa qui a fait un investissement, vraiment pour nous, c'est sympa. Et donc on va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on veut et elle va pouvoir nous répondre à tous nos problèmes. Peut-être pas sur Dieu encore, mais encore que. Et donc, une vidéo sponsorisée. Enfin, c'est pas parce que des gens ont fait like sur cette vidéo qu'elle est mieux venue, c'est l'algorithme qui a choisi ça. Et il y en a comme ça un certain nombre. Et l'algorithme peut booster certaines vidéos et on paye pour ça. D'accord ? Et quand on vend des données, on les vend à qui les données ? Donc aussi, ils récupèrent des données. Plus je passe de temps, bon là, ils savent que vous aimez bien la princesse, je sais pas quoi, mais vous n'avez passé pas beaucoup de temps. Mais les mecs qui passent 2 heures par jour, on finit par bien les connaître. Très bien les connaître. Exactement leur centre d'intérêt. Vous avez le tiers du temps d'éveil qu'on passe sur les réseaux, donc on connaît parfaitement l'algorithme. Et donc, toutes ces données, c'est précieux, il va les vendre à qui ? Voilà, à des annonceurs. Donc au final, c'est encore la publicité qui... Mais ça va permettre de davantage cibler une publicité. Donc au final, c'est toujours la publicité. Que ce soit la vente de données ou directement les images sponsorisées, ça reste un but publicitaire. Donc c'est extrêmement lié à de la publicité. Et donc, progressivement... Les médias sociaux se sont transformés en une immense plateforme publicitaire. C'est ce que disent d'ailleurs les responsables de marketing aujourd'hui. On va en entendre d'ailleurs tout à l'heure. Et les médias, de manière générale, ça a même touché un peu tous les médias, puisque tout se finance plus ou moins par la publicité, sont devenus un champ de bataille pour capter notre attention. Ça va être à celui qui va savoir le plus efficacement capter notre attention. Une sorte de guerre. Il y a d'ailleurs... Donc ils vont optimiser leurs algorithmes pour augmenter au maximum le temps que nous allons passer devant notre écran sur notre média social. Donc l'algorithme est vraiment programmé pour ça. Et comme ils ont beaucoup d'argent, c'est les meilleurs programmateurs qui y sont. En fait, c'est à tel point, pour vous dire, qu'ils s'auto-programment en quelque sorte. Donc, ils ont été tellement doués qu'avec l'expérience, ils voient très bien une vidéo qui marche un peu mieux qu'une autre, etc. Donc il apprend, tel profil ça fonctionne mieux, telle vidéo, enfin il auto-apprend en fait. Donc on ne sait plus très bien aujourd'hui comment fonctionnent les algorithmes, plus personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils optimisent le temps d'écran. Enfin, ils maximisent plutôt le temps d'écran. Mais on ne sait pas très bien quelle vidéo ils proposent, comment ça fonctionne. On n'est plus maître du tout du fonctionnement des algorithmes puisqu'ils auto-apprennent en fait, à partir de l'expérience, de façon empirique. Donc le monde médiatique s'est transformé en un champ de bataille pour capter notre attention, et le philosophe Yves Citon, un nom important dans cette recherche, parle d'économie de l'attention. Donc il parle d'économie de l'attention. Donc, vous voyez ce livre, c'est un collectif où c'est plusieurs chercheurs qui ont écrit chacun un article. Et notamment, il y en a un, donc Daniel Bougnou, qui cite Patrick Lelay, qui exprime cette guerre de l'attention de façon la plus explicite, la plus claire, c'est son mérite. C'était le PDG de TF1 à l'époque, Bouygues, hein, et vous avez sans doute déjà entendu parler de ça. Donc c'était en 2004, donc il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux, mais en fait la logique est presque la même. Dans une perspective business, soyons réalistes, à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Ça mérite d'être clair. C'était un type qui, enfin ça je le développe un peu dans le livre, hein, mais c'était un type qui voulait vraiment au début, quand ils ont repris TF1, je pense qu'il était sincère, promouvoir la culture française, etc. En fait, il s'est rendu compte immédiatement que c'était absolument pas possible. Qu'il était totalement soumis aux diktats de l'audimat. C'est le principe des médias sociaux, hein. Donc fondamentalement, rien n'a changé entre cette émission et aujourd'hui. Simplement, la technique Internet a perfectionné le modèle. Et aujourd'hui, on peut ajouter deux éléments à cette description. D'abord, la revente des données collectées. Les chaînes de télévision ne pouvaient pas avoir des données sur l'utilisateur parce qu'il n'y a pas d'interaction. Aujourd'hui, comme il y a une interaction, on peut connaître l'utilisateur, donc on peut revendre ces données. Donc ça rapporte beaucoup d'argent, mais ce qui augmente l'efficacité des publicités. Et puis, les émissions récréatives, pour prendre un terme de Michel Desmurger, ne sont plus produites par la société, mais produites par les utilisateurs, ce qui est encore mieux. Il n'y a même plus rien à produire, en fait. Il n'y a plus qu'à les gérer, quoi, à les orienter. Et bien sûr, donc par des milliards d'utilisateurs, mais c'est l'algorithme qui choisit laquelle va être diffusée. Vous avez bien compris ça. Ainsi, cette guerre de l'attention se gagne par l'amélioration des performances de l'algorithme. Par exemple, TikTok est un média social qui est arrivé plus tard et qui a une progression fulgurante grâce à la performance, tout le monde disait, la performance de son algorithme. C'est terrible parce qu'on qualifiait même cette performance. Très addictive. Alors, à votre avis, quels sont le type d'image que l'algorithme va mettre en avant? Alors, vous vous disiez de façon... J'ai entendu un peu les témoignages, surtout de façon familiale. Et puis WhatsApp, c'est celui qui fait le moins, ça. Il n'est pas dans cette catégorie-là, mais... Alors, oui, violence. Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui prend en trip, quoi. Hein, qui est un peu choquant, événementiel, hein, tout à fait. Un sentiment, une émotion, exactement, une émotion forte, peut-être une espèce de joie, une béatitude, ou alors au contraire une peur, ou un truc un peu scandaleux, exactement, une force d'émotion, Et comment on fait d'ailleurs pour créer une émotion avec une image ? Des images chocs. Allez, des lumières.